On va prendre un verset qui se trouve dans Romains d'abord. C'est le verset qui est affiché ici. Donc Romains 11, verset 36, où il est écrit « C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est quand même fort ça, hein? Trois petits mots, de, par, pour, qui sont riches de sens. Trois petits mots, simplement, pour donner la raison d'être de toute chose. Ça suffit. Moi, ça m'impressionne. Ce qui est admirable, quand on écoute Dieu, c'est qu'on voit qu'il n'a pas besoin de beaucoup parler pour dire quelque chose. Il dit peu, et ça suffit. Si nous, on devait écrire quelle est l'origine du monde, quelle est la fin, quel est le but de la création, mais ça nous prendrait des volumes et des volumes, et d'ailleurs les gens écrivent, hein. Il y a des volumes et des volumes, parfois il y a des choses bien, parfois non, hein. Mais ici Dieu, trois petits mots, et puis il nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Et ce verset signifie que tout ce qui ne vient pas du Créateur, hein, tout ce qui ne vient pas du Seigneur, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas de raison d'être, en fait. C'est insignifiant, c'est rien. Parce que la seule raison d'être d'une chose, c'est qu'elle est issue de Dieu, qu'elle provient de Dieu, qu'elle est animée par Dieu et qu'elle a pour fin la gloire de Dieu. C'est ça qui donne la raison d'être à une chose. Sinon, ça disparaît. C'est donc le lien avec Dieu qui donne la valeur à une chose. Et c'est malheureux parce que dans notre monde, parfois on s'attache à une signature, hein, c'est comme un tableau. On retrouve un tableau dans un grenier et là, merveille des merveilles, c'est une pièce rare, on n'en avait même pas connaissance, même si c'est moche, même si c'est hideux, hein, ça n'a pas d'importance. D'un seul coup, eh bien, ça vaut des millions d'euros et tous les musées se le réclament et voudraient l'acheter. Simplement parce qu'il y a une signature en bas. Mais la vraie valeur d'une chose, elle s'évalue par rapport à ces trois petits mots. De, par, pour lui. C'est ça qui est vraiment important. C'est le lien avec le Créateur qui établit la valeur d'une chose. Et on va voir ce matin que ces trois petits mots sont valables à la fois pour la création, à la fois pour notre vie chrétienne et aussi pour le salut. Alors d'abord la création. Tout d'abord, la création, tout est directement lié à Dieu. Tout ce qu'on voit autour de nous, la moindre chose, toute existence physique, matérielle, est vraiment de lui, par lui et pour lui. Et on va voir d'abord trois versets. Donc c'est Hébreux 11 et verset 3. Il est dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu ». En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'univers, c'est quelque chose, on a du mal à s'imaginer, l'univers. Les dimensions, elles sont tellement grandes qu'on peine à essayer de se rendre compte, mais qu'est-ce que c'est finalement l'univers ? Déjà, simplement, quand on regarde le système solaire, c'est immense. Et quand on regarde la Voie lactée, donc dans laquelle se trouve le système solaire, la Voie lactée, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Alors, j'ai trouvé une image, des ordres d'idées. Si notre système solaire, donc déjà le système solaire est immense, si le système solaire faisait 1 mm, alors la Voie lactée ferait 47 km. Ça vous donne une idée? Et dans ce cas, l'univers connu ferait 15 millions de kilomètres de diamètre. 15 millions de kilomètres de diamètre. Vous voyez un peu? Maintenant, la réalité, c'est que le système solaire ne fait pas 1 millimètre. Il fait 20 milliards de kilomètres. Alors, imaginez la Voie lactée. Imaginez l'univers. Ça nous dépasse complètement. Et Dieu dit que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Dieu a parlé et tout s'est mis en place. Regardez Psaume 33, verset 6. Il est dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel » et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il a parlé, tout s'est déployé dans cet univers gigantesque. Dans l'évangile de Jean, il est dit aussi, toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qui existe et même ce que nous ne voyons pas, tout est issu de lui. Et nous, en tant qu'êtres vivants, bien sûr, on est issus de lui. Il nous a pensés, il nous a conçus par sa parole créatrice. Et on peut donc dire qu'on vient directement du cœur, on vient de la pensée de Dieu. S'il n'avait pas désiré faire des êtres vivants, on a parlé d'intelligence, doués d'intelligence, de sentiments, d'émotions, des êtres aussi spirituels, eh bien, nous ne serions jamais nés et même nous n'aurions jamais su notre inexistence. Voilà. Dieu aurait continué à être, hein, puisqu'il est de toute éternité, mais sans nous. Mais Dieu a décidé qu'il en soit autrement. Il a décidé de créer toute chose et il a décidé de nous créer chacun aussi individuellement. Et donc, on vient de lui. Salomon a écrit « Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, la mort, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Souviens-toi pendant que tu es vivant, en fait, Dieu nous dit. Notre esprit vient de Dieu, il nous l'a donné et un jour, eh bien... Voilà, ça sera la fin, il va le reprendre. Hein. Et donc, il faut se souvenir de lui. Et non seulement donc tout vient de Dieu, mais tout est aussi par lui. Hein. C'est par lui que sont toutes choses. Regardez Colossiens 1,16. Il est dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et là, on voit tout a été créé par lui, c'est-à-dire par lui, c'est par Dieu le Fils. Tout a été créé par Dieu le Fils. C'est lui qui a, en quelque sorte, mis en œuvre le plan du Père, hein, ce que Dieu voulait. Il l'a rendu concret, il l'a rendu existant, visible, parce qu'il est la parole créatrice. Hein. Ce qui veut dire que, plus précisément, eh bien, l'univers a été créé par l'intermédiaire, au travers de Jésus-Christ. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image » et cela fut ainsi. Et le Fils a été comme la parole, comme la main du Père qui a rendu visible toutes ces choses. C'est par lui que sont toutes choses. Et on lit aussi dans ce verset que toutes choses subsistent en lui. Ça veut dire que sans le Fils de Dieu, il n'y a rien qui pourrait tenir, en fait. Tout est maintenu en permanence, constamment, de manière continue. Tout repose sur le Fils. Un jour, j'étais à Paris et j'étais en voiture à un feu et j'ai vu quelqu'un qui faisait la manche. Je l'avais vu ailleurs, mais pas comme ça. En fait, c'était un jongleur. Et il s'est mis devant la file de voitures et il s'est mis à jongler comme ça pendant une minute. Et puis, il savait bien quand le feu allait passer au vert. Hein. Il s'est arrêté, il a récupéré toutes ses quilles. Là, et puis, il est allé faire la manche au milieu des voitures rapidement. Et quand vous pensez à un jongleur, hein, qu'il ait des quilles ou des balles, tant que lui fait le mouvement, hein, que ses mains lancent et rattrapent de la bonne manière, il n'y a pas de problème. Hein. Et ça, tout fonctionne. Mais si jamais une main s'arrête, eh bien, patatras, tout s'effondre. Et on peut dire que, de la même manière... on peut imaginer la création comme étant eh bien, quelque chose qui est retenu en équilibre comme ça dans les mains d'un jongleur divin, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Toute chose subsiste en lui. C'est lui qui retient tout, c'est lui qui fait que tout eh bien, continue à fonctionner de manière harmonieuse. Toutes les lois de la création, Dieu tient tout. Si Dieu lâche, alors tout part dans tous les sens, hein, il n'y a plus de loi. À ce moment-là, et c'est la destruction. L'univers s'autodétruit sur lui-même. Et il n'y a plus rien. Nous n'existons plus. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui retient chacun, qui fait que le cœur de chacun bat. Si Dieu nous lâche, tout lâche. C'est de lui, par lui, et maintenant aussi pour lui qu'est la création. On a lu tout à l'heure, tout a été créé pour lui. Et la raison d'être de la création, eh bien, encore une fois, c'est Dieu. Elle existe pour Dieu, elle existe pour révéler et pour glorifier Dieu. C'est ce qui est écrit en Romains, chapitre 1 et verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout ce que nous voyons, la nature, les animaux, la mer, le soleil, une fleur, tout absolument a été créé pour Dieu, pour révéler Dieu, pour manifester Dieu, sa personne, ses attributs, son caractère, sa puissance, sa sagesse, sa divinité. En fait, Dieu nous est rendu visible par la création. Et même s'il y a une erreur, il semble qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans la création, un raté, on dirait, eh bien, c'est quand même pour Dieu. Par exemple, le méchant, le pécheur irréligieux qui rejette Dieu, l'impie, le rebelle, eh bien, même lui, il fait partie de la création, et même lui, il sert les intérêts divins. Il est pour Dieu. Il existe pour Dieu. On lit ça dans un proverbe, Proverbe 16, verset 4, où il est dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. » Il a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Et Dieu savait que l'homme allait tomber dans le péché. Il savait qu'un jour, il y aurait des méchants. Il ne l'a pas voulu. Il ne l'a pas voulu, mais il savait que cela arriverait. Et il savait que le méchant, eh bien, servirait à son insu le Créateur, à glorifier le Créateur. Et donc le méchant est fait pour le jour du malheur, autrement dit pour le jour du jugement, où Dieu va exercer son jugement. Alors il existe pour Dieu. Et quand Dieu exercera sa justice sur lui, alors Dieu sera glorifié. Parce que Dieu déteste le mal et le péché. Et ça c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Hein, parce que ça nous remet... ça remet notre place dans la création et on se dit, mais en fait, tout, et par le contrôle aussi de Dieu, il est souverain. C'est réellement de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. Et la création dans son ensemble. Toute chose, ça englobe tout. C'est l'absolu. Il n'y a rien de la création qui ne soit pas de lui, par lui et pour lui. Maintenant, ce qui est vrai pour la création, c'est aussi vrai pour notre vie chrétienne, notre vie de tous les jours. Observons, regardons un peu notre vie chrétienne. Si on a accepté Jésus dans notre cœur, ça veut dire si vraiment on s'est repenti de nos péchés et on l'a saisi comme notre seul sauveur pour qu'il nous pardonne nos péchés et nous sauve, alors notre vie chrétienne, d'abord, elle vient de lui, elle est issue de lui. Et elle doit logiquement être vécue par lui, et pour lui, c'est indispensable. J'ai commencé tout à l'heure à vous dire en introduction que rien en dehors de Dieu n'a de valeur. En dehors de Dieu, rien n'a de valeur. Tout ce qui n'est pas issu de Dieu, de toute façon, c'est destiné à disparaître. Il ne restera absolument rien. Et j'aimerais développer un petit peu plus cette idée, parce que ça, c'est aussi incontestable en ce qui concerne notre vie chrétienne. En général, on n'a aucun mal à dire que notre origine spirituelle, elle vient de Dieu. Ça, c'est une évidence, que notre vie en Christ, elle vient de Dieu. Mais on a parfois un peu plus de mal à dire que, on doit aussi vivre par lui et pour lui. La vie chrétienne, elle ne peut être vécue que par lui et pour lui. Parce que si on ne vit pas la vie chrétienne de cette manière, alors on manque le but. On manque complètement la cible. Si ce n'est pas le cas, notre vie, ce que nous faisons, ça n'aura aucune valeur pour l'éternité et aucune valeur maintenant. Il n'y aura aucune consistance ici-bas, ça sera du néant, et puis ça ne servira à rien puisque ça disparaîtra et il n'y aura rien dans l'éternité. En fait, notre vie va être légère. Chaque fois que je lis le livre de Daniel, je suis interpellé par ces paroles qui ont été dites à Belshazzar. Vous savez, cette main qui a écrit sur le mur, « Méné, Méné, Tekel, Upfrasine », qui signifie, je vais vous lire le texte plutôt, « Voici l'écriture qui a été tracée. » Donc, c'est Daniel qui parle. Il dit « Comptez, comptez, pesez, divisez. » Et voici l'explication de ces mots. « Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance. » Tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et dans la nuit, Belshazzar a été exécuté. Il est mort. c'est clair que si notre vie, elle n'est pas vécue par lui et pour lui, alors elle va être comptée, pesée, et puis au final, elle va être trouvée légère, très légère. En fait, notre vie chrétienne n'aura servi qu'à peu de choses, en fait. Parce qu'une chose n'a de valeur que si elle est issue de lui. Il faut bien retenir cela, hein, pour qu'on comprenne que ce qu'on ne fait pas par lui, quand on le fait par nous-mêmes, alors c'est du vide, c'est du néant, ça ne sert à rien. Vivre sa vie en la gardant pour soi, sans la livrer, sans la consacrer, c'est inutile, c'est sans intérêt. Toutes nos paroles, toutes nos œuvres, toutes nos actions, ça va tomber dans l'oubli. Ça sera terminé. Et Dieu ne retiendra rien. Ça va être du bois, du foin, du chaume, hein, comme il est dit dans 1 Corinthiens. Il est dit, hein, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Jésus-Christ, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ainsi, en tant que chrétien, nous venons de lui, mais notre vie n'a du sens que si elle est vécue par lui. C'est-à-dire si elle est fondée sur la pensée, la volonté de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous ne pouvez rien faire. On se dit, « Mais quand même, Seigneur, enfin, j'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai une tête, hein, une intelligence. Je peux quand même faire plein de choses avec mes mains. Je peux bâtir une maison. Avec mon intelligence, je peux écrire des livres. Je peux parcourir le monde. Je peux faire plein de choses. » Alors oui, on peut faire toutes ces choses, mais il n'en restera aucune trace. Aucune mémoire. Ça disparaîtra, pas de souvenir, si ce n'est pas fait par lui. Par lui. Ça vous est déjà arrivé de faire des choses complètement inutiles dans votre vie chrétienne, hein? Moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein, faire des choses inutiles, mais vraiment inutiles. Puis après coup, on se dit, mince, pourquoi j'ai perdu mon temps? Là, dernièrement, j'avais besoin de brouillon. Et puis, je regardais, en fait, un endroit où j'avais mis plein de photocopies de livres que j'avais photocopiés en me disant, « Oh, mais c'est vraiment important, etc. » Mais je ne les ai jamais lus. Je ne les lirai jamais, probablement, parce que ce n'est pas simple, hein, à lire. Je préfère lire les livres qui sont reliés. Et je me dis, mais des fois... Enfin, je ne dis pas que les livres n'étaient pas bons et que ce n'est pas bien de les garder, hein, mais des fois, on peut faire des choses, on aurait pu faire autre chose, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, aussi, une autre chose, vous partez pour faire des courses, vous arrivez au supermarché, vous faites vos courses, etc., vous arrivez à la caisse et là, vous sortez votre portefeuille, pas la carte bleue. Ça ne vous est pas déjà arrivé ? Obligé de laisser le caddie ou les affaires et repartir chez soi, et reprendre la carte et puis revenir. Et des fois, quand on vit ça, on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi j'ai vécu ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert? J'ai perdu une demi-heure, on aurait préféré avoir sa carte. Ça peut vous arriver une fois, deux fois, trois fois dans votre vie. Imaginez, ça vous arrive toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez une perte de temps comme ça qui vous mange une demi-heure. À la fin, ben, ça devient vite un jour, des jours, des mois. Et on peut perdre énormément de temps comme ça. Un jour, Dieu va passer notre vie au crible et le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Et tout ce que nous aurons fait sans Jésus, sans son aide, sans son approbation, c'est-à-dire en dehors de sa volonté, en dehors de ses plans pour nous, eh bien tout ça va être consumé, ça va être brûlé, il ne restera rien. Tout ce qui n'a pas été posé sur le fondement, sur la volonté de Christ, eh bien ça disparaîtra. Quand on regarde ça, on se dit, vu sous cet angle, qu'est-ce qui va rester de notre vie chrétienne ? Si on a vécu déjà 20 ans de vie chrétienne, combien en réalité il y a d'années, hein, il y a peut-être un an, deux ans, trois ans, quatre ans qui vont être consumés. Hein, si on met bout à bout, vous savez, les événements de vie Qu'est-ce qui va rester 10 ans, 5 ans, 1 an? C'est possible, hein? C'est possible au final. En fait, tout ce qui sera les œuvres de la chair, tout ce qui sera les projets de la chair, les inspirations de la chair, tout ça, ça disparaîtra. Jean 5, 19. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et on voit ici Jésus qui était soumis à cette règle. Le Fils de Dieu, descendu du ciel, il dit, ne pouvait rien faire de lui-même et il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Autrement dit, il lui était entièrement dépendant. Est-ce que ça pourrait être autrement que ça? Ben non. Si le Fils, c'était comme ça pour lui, alors nous, à combien plus on devrait se soucier de se dire, mais est-ce que vraiment là, je suis dans la volonté du Père? Et je fais la volonté du Père. La vie avec le Seigneur, c'est justement d'apprendre que le meilleur, c'est de vivre dans ses plans, c'est de vivre dans sa volonté, c'est de vivre dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors certains mettent 2 ans à l'apprendre, d'autres 10 ans, d'autres 40 ans, d'autres l'ont jamais appris de toute leur vie chrétienne. Que le meilleur, c'est de vivre dans le plan que Dieu a tracé, dans ce que lui attend pour nous. Il n'y a pas d'autre plan qui est aussi bon que celui-là. Alors on peut s'épuiser hein, dans des voies de garage, mais on s'épuisera et on perdra du temps. Alors comment vivre par Jésus-Christ? Il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus qui nous le montre. Hein. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc le Fils était livré, il était soumis au Père, et il ne faisait que la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus nous a donné cet exemple de l'homme. Il dit, mais en fait, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est toujours un verset qui m'a beaucoup parlé. C'est non, Dieu nous appelle à vivre dans sa volonté. Parce que c'est là que sera notre bonheur, dans le renoncement à notre vie, dans la mort à soi-même. Le Fils a accompli la volonté d'un autre, celle de Dieu. Et nous, il faut qu'on accomplisse la volonté d'un autre, celle de Dieu. Et on devrait avoir une question qui doit normalement revenir sans cesse. C'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seigneur, quelle direction tu veux que je prenne ? Seigneur, est-ce qu'il faut faire ça, dire ça, aller par là ?» C'est quelque chose qui doit habiter notre âme. Vendredi après-midi, on était avec des chers frères et sœurs. On a pris un goûter ensemble. Et puis, voilà, c'était bien agréable, on profitait, la discussion, etc. Et puis, ils nous invitent à rester manger le soir, si on veut. Et là, partager entre l'idée que, finalement, on passe un bon moment, on va profiter encore de ce moment ensemble, ils nous invitent, hein. Et en même temps, quelque chose qui ne va plus vraiment, comme si ça ne passe pas. Et bon, finalement, on n'est pas resté. Et je suis en paix que l'on ne soit pas resté. C'était ça qu'il fallait faire. Mais simplement pour vous dire que le Seigneur, il veut nous conduire. Il veut nous conduire dans les détails de la vie quotidienne. Et si on n'est pas sensible à dire, Seigneur, mais quel est ton plan? Quelle est ta volonté? Où tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va rater des portes. L'insensibilité nous fait rater plein de portes. Dieu veut nous conduire à une sensibilité, qu'on puisse comprendre, discerner quelle est la volonté du Seigneur. Dieu a une volonté, on le sait. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance de sa volonté. Sinon, mais à quoi ça sert qu'il nous dise « mais obéis-moi » ? Il a une volonté. Il y a la volonté générale des Écritures, où là, on voit clairement tout ce que Dieu veut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Et puis ensuite, il y a une volonté personnelle, individuelle, quotidienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et ça se développe dans une vraie relation, une vraie intimité avec le Seigneur. Il faut développer ça. On ne peut pas en rester simplement à la volonté générale de Dieu. Parce que sinon, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises dans notre vie chrétienne. On va blesser, on va faire des erreurs, on va perdre du temps, on ne vivra pas par lui. À un moment, il faut... Oui, il y a la volonté générale, mais il faut que je développe ma relation avec Dieu et que je comprenne ce que je dois dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, être ou ne pas être, à quel endroit. C'est vraiment important. Vivre par Jésus-Christ, c'est vivre sous l'influence de Jésus-Christ. Vivre sous l'influence de Jésus-Christ. Il ne nous force pas à faire les choses. Il ne nous force pas. Mais il attend de nous qu'on soit docile et volontaire. Et qu'on dise, mais je sais que le meilleur, c'est ta volonté. Je veux la faire, Seigneur. Conduis-moi, dirige-moi dans tes voies. En fait, c'est se laisser pousser par sa douce influence, comme un murmure doux et léger, une conviction qui descend dans le cœur, la certitude de faire ce que Dieu veut. C'est ça qui compte vraiment, vivre par lui. Et toute la valeur de nos actions réside donc dans cette question, est-ce que je suis en train de faire les choses par lui? On doit se poser la question. Et si on est obligé de se dire, peut-être que non, Seigneur. Eh bien là, il faut se repentir et demander pardon et dire, Seigneur, aide-moi. Je veux renoncer à ma vie et je veux connaître vraiment ta volonté et vivre dans la dépendance du Saint-Esprit. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Pour lui, c'est aussi important. J'aimerais qu'on prenne Romains 14, 6 à 8. Il est dit, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc là, Paul prend l'exemple d'un chrétien spirituel, de quelqu'un qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, et il dit que celui-là, il fait les choses pour Dieu. Mais quand on regarde le sujet qu'il aborde ici, c'est plutôt sur la question des opinions, puisqu'il était en train de, il est en train de parler d'une distinction des jours, il est en train de parler de l'alimentation. Ce n'est pas des choses où il y a des règles qui sont établies, des commandements clairs de Dieu. Certains vont manger un aliment, d'autres ne vont pas le manger. Voilà, on a des vies et des opinions différentes. Et c'est un choix personnel que Dieu accepte. On n'est pas tous des clones, tous pareils, à se ressembler exactement. Non, on est différents les uns des autres. Et du moment qu'on est par lui et qu'on le fait pour lui, alors eh bien tout va bien. Tout va bien. C'est ça qui est important. Et il faut toujours se poser la question, mais est-ce que je suis en train de le faire vraiment pour le Seigneur? Est-ce que ce que je le fais vraiment pour lui? Par exemple, si je fais excès de quelque chose, est-ce que je peux dire je le fais pour le Seigneur? Il n'y a pas beaucoup d'excès qui sont bons. L'excès, en général, c'est mauvais, à part l'excès dans l'amour. Là, on ne fera jamais assez d'excès. On peut aimer Dieu, aimer notre prochain. Mais sinon, est-ce que je le fais vraiment pour le Seigneur? Dans la vie chrétienne, il y a quand même une marge de liberté qui est quand même vaste, qui est assez large. Mais est-ce que je peux dire, oui, c'est pour le Seigneur que je le fais, et il est honoré quand je le fais. Vraiment, il est honoré, tout va bien. Il faut se poser la question. Si je distingue pour les jours, si je mange pour le Seigneur, si je m'habille pour le Seigneur, est-ce que je m'habille vraiment pour le Seigneur? Est-ce qu'il est honoré? Si je me rends dans tel endroit ou dans tel endroit, est-ce que le Seigneur est honoré? En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et ça, c'est un verset, je trouve, qui nous humilie parce que ce n'est pas toujours vrai. Mais chacune de nos décisions, chacune de nos actions devait être faite pour le Seigneur. Est-ce que Dieu veut que je le fasse? Est-ce que ça le glorifie? Est-ce que vraiment je le fais pour lui? Si on veut que notre vie chrétienne, elle ait de la valeur, il faut que Elle vient de lui, mais il faut qu'elle soit par lui, par son esprit, et pour lui, vraiment pour lui. Parce qu'il n'y a rien en dehors de deux, par et pour lui. On arrive au troisième volet. C'est vrai pour la création, c'est vrai pour la vie chrétienne et c'est vrai aussi pour le salut. Dieu sauve, il sauve l'homme pécheur, mais d'abord, bien sûr, ça ne vient que de lui. Hein, c'est lui le sauveur. Hein. Le salut ne pouvait venir que de Dieu et par sa préscience, Dieu était conscient avant de créer l'homme qu'un jour il tomberait dans le péché, qu'il serait entièrement perdu, mais il a quand même créé pour sa gloire. Hein, et son dessein, et il lui a préparé un moyen de rédemption. Et on le comprend quand on lit ce verset d'Éphésiens où il est dit que nous avons été élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, Dieu, avant notre naissance, savait que notre création, que nous serions pécheurs, mais il a voulu, il a permis à l'avance, hein, parce qu'il avait un but aussi, c'est de se faire un peuple, hein, et qu'il soit saint, irréprochable devant lui. Ça signifie que le salut était prêt dans le cœur de Dieu avant la création. Il l'a lui-même conçu, mais avec la rédemption, pour que nous n'allions pas en enfer, mais que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Je lis ce verset dans Galates. Hein. « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Donc Dieu avait préparé, et quand le temps était venu, quand c'était le bon moment, il a envoyé son Fils pour sauver à la fois tous ceux qui étaient déjà morts dans la foi, hein, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, et plein d'autres, hein, et pour sauver tous ceux qui allaient croire dans le futur, en Jésus-Christ. Tout vient de Dieu, le salut vient de Dieu. Mais le salut est aussi par Dieu lui-même. C'est aussi important ça. Pour nous sauver, Dieu s'est impliqué directement dans le salut. C'est pas qu'il nous a regardé à distance. Hein. J'ai rencontré hier un homme avec qui j'ai parlé. Et pour lui, c'est ça. En fait, il se dit, mais en fait, Dieu, ben, il nous laisse faire et on doit se sauver soi-même. Et il me dit, mais votre fille, vous lui faites pas ses devoirs. Donc, autrement dit, Dieu va pas tout faire pour vous. Hein, le salut par la grâce, non. Mais non, Dieu s'est impliqué directement dans notre salut. Et c'est lui qui l'a fait, le salut. On lit ça notamment dans Romains 5, 1. Il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ qu'à ce moment-là, eh bien, la réconciliation est possible avec Dieu. D'ailleurs, dans un autre verset, il est dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Donc, on était séparés de Dieu à cause de nos petits péchés, nos petits mensonges et nos infidélités, notre orgueil, notre égoïsme, notre méchanceté. Mais Dieu a envoyé le Fils pour nous sauver. Et maintenant, on peut avoir la paix avec Dieu par le Fils, au travers du Fils, par le moyen du Fils. Donc, Jésus, c'est une personne essentielle et le moyen exclusif d'être sauvé. J'ai aimé que François fasse ce petit partage tout à l'heure parce que je me suis dit, mais ça, voilà, ça, c'est dans la prolongation de ces choses, Jésus-Christ est le seul sauveur et le seul moyen d'être sauvé. C'est ce que dit la Bible. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a personne d'autre qui puisse nous sauver. Personne. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que toutes les religions ont le même Dieu? Est-ce que, eh bien, l'Éternel, Allah, Dieu, Vishnu, Brahma, Shiva ou un autre, c'est pareil, c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, donc c'est le même Dieu qui a plein de noms différents. Jésus-Christ dit qu'il n'y a qu'une vérité et qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y parvenir. Il dit, c'est moi-même. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre vérité. Et donc, dire que tous les dieux s'équivalent et que finalement Allah ou Dieu, mais c'est le même Dieu, ben non, ce n'est pas le même Dieu. Parce que eh bien, quand on lit le Coran, ça ne nous pousse pas à aller par Jésus-Christ pour accéder au Père. Au contraire, on a réduit Jésus-Christ à la simple valeur d'un prophète et on invite les hommes à aller directement vers Allah. Mais ça, c'est impossible. Nous avons la paix par Jésus-Christ avec Dieu. C'est indispensable. Nul ne vient au Père que par moi. Mais si on passe par lui, c'est-à-dire si on place sa confiance en lui, si on se repent de ses péchés devant lui, alors par lui, on a la vie éternelle, on a le pardon des péchés. Le salut vient de Dieu, il est par Dieu, par Christ, et il est pour lui aussi. Et c'est vraiment important aussi. La fin, le but ultime du salut, c'est d'être entièrement pour Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour nous débarrasser de quelques petites choses qui nous dérangent dans notre vie actuelle. Vous savez, des fois, on se dit, j'ai envie de faire ma propre vie, mais j'ai des petites choses là, quand même, ça c'est comme des boulets qu'on traîne, et on aimerait bien être pardonné de ces choses, et puis voilà. Mais par contre, je continue à faire ma propre vie, et à vivre par moi, pour moi. Non, Dieu nous sauve, il nous sauve, mais par lui, et pour lui. Ça, c'est vraiment important. Et tant qu'on ne veut pas être sauvé pour lui, on ne peut pas être sauvé, puisque c'est la raison d'être du salut. Il nous sauve pour sa gloire. Regardez Tite 2, verset 14. Tite 2 et verset 14. Il est écrit, « Il s'est donné, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, Dieu nous sauve lui-même pour que nous lui appartenions, et en Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Autrefois, on pouvait disposer de notre petite vie pour faire ce qu'on voulait, aller dans nos souillures, aller dans nos petits péchés, et voilà, faire notre propre plan. Mais si on vient à Christ, on lui appartient. Et après, ben, c'est pour faire son plan, pour faire sa volonté, pour faire ses œuvres. Ce qui veut dire que Dieu fait un travail dans le cœur de ses enfants qui se sont offerts à lui. Il fait un travail pour les amener à être entièrement pour lui, pour sa gloire. En Éphésiens, on a ce beau verset qui dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église ». Comme Christ a aimé l'Église, et Christ s'est livré pour elle, l'Église, afin de se sanctifier l'Église, en la purifiant, en la lavant par l'eau des Écritures, de la parole de Dieu. Pourquoi faire ? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais cette Église sainte, irréprochable. Jésus s'est livré pour nous, il a donné sa vie pour arriver à ce but, nous sanctifier, que nous soyons purs, saints, irréprochables devant lui. Et il le fait par la parole de Dieu. Il nous lave, il nous relave, et il nous touche, il nous parle, il nous reprend, il nous convainc, il agit dans nos cœurs. Que chacune de nos âmes, le but du salut, c'est que chacune de nos âmes devienne belle, pure, sainte pour lui. Parce qu'on nous formons son épouse. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et j'aimerais prendre un dernier verset. C'est Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et bientôt, on va avoir les noces de l'agneau. Ça va être l'union du peuple racheté, les vrais chrétiens, donc ceux qui ont vraiment, qui sont passés vraiment par Jésus-Christ, puisque nul ne vient au Père que par lui. Donc ça ne peut être que ceux qui sont passés par Jésus-Christ, hein, les vrais enfants de Dieu, qui se sont attachés au Sauveur et Seigneur. Et comme un homme prend pour épouse une femme, Dieu le Fils va épouser, va s'unir, s'attacher, se lier et ne fera qu'un avec les croyants pour toujours. C'est un mystère, dit Paul. C'est un mystère. Et le but de notre salut, c'est d'être entièrement pour Dieu. Pour Dieu, parce que c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Il n'y a pas d'autre raison d'être. Et un jour, Dieu va rouler cet univers et ne restera que ceux qui sont de lui, par lui et pour lui. Tout le reste, ça disparaîtra. Alors, est-ce que ce matin, notre vie vient de lui? Est-ce qu'elle est animée par lui? Est-ce que finalement, elle sera entièrement pour lui? On est naturellement éloigné de Dieu, séparé de lui. Mais notre raison d'être, elle est en lui. Et on peut venir à lui aujourd'hui. On connaît le chemin. On l'a entendu. C'est par Jésus-Christ.